Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
Alors, je m'appelle Abigail Assor, j'ai 31 ans, je suis romancière, et je suis née à Casablanca, et j'habite à Paris depuis 13 ans et demi. J'ai passé ma jeunesse au Maroc. Je viens d'une famille en fait qui est 100% marocaine, mais depuis des générations. Enfin, c'est incroyable, je m'intéresse vachement aux arbres généalogiques en ce moment. Et ça remonte vachement loin, les familles, enfin les noms marocains. Et puis c'est vraiment depuis milieu 19e siècle, quoi. Je viens d'une communauté qui aujourd'hui est très petite, mais bon, qui est déjà très petite à la base, qui sont les Juifs du Maroc. Donc tout le monde est juif marocain chez moi, des deux côtés. Je pense que, originellement, du côté de mon père, ce sont des Juifs d'Espagne, donc ce qu'on appelle les Séfarades. Et du côté de ma mère, je ne suis pas sûre 100%. Je me demande si ce n'était pas des premières vagues d'immigration très anciennes de ce qu'était la Palestine à l'époque, ou... des Juifs berbères, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des Marocains. J'ai une grande sœur qui s'appelle Mia et un petit frère qui s'appelle Ben. Et on est tous les trois à Paris depuis nos 17-18 ans. On a tous les trois quitté le Maroc. Le milieu dans lequel j'évoluais au Maroc, c'était un milieu très francophone, qui est un peu d'ailleurs une sorte de facteur d'intégration dans la bourgeoisie marocaine. C'est vraiment le fait de parler le français, surtout dans les grandes villes. Et il y a un peu cette idée qu'on va faire ses études à l'étranger, qu'on ne fait pas ses études au Maroc, alors que c'est dommage parce qu'il y a de bonnes universités, mais je ne sais pas, c'est une sorte de code social. Donc on a toujours su en fait qu'après le bac, on partirait. En général, les Marocains qui vont étudier à l'étranger rentrent au Maroc ensuite. Nous, on a choisi de rester en France. On n'est pas retourné au Maroc. Aucun de mes parents a quitté le Maroc. Ouais, c'est vrai que ça se faisait beaucoup chez les Juifs de quitter le Maroc. En fait, il y a eu un protectorat français au Maroc. Je fais un cours d'histoire, mais il y a eu un protectorat français au Maroc qui a commencé en 1912 et qui s'est terminé en 1956. Et ce protectorat-là, il a beaucoup, beaucoup changé la façon d'être, la façon de se situer, la façon de se penser des Juifs marocains, des musulmans marocains aussi. Donc, le protectorat commence en 1912, mais déjà en 1930, les Juifs au Maroc parlent français, s'habillent à l'européenne, alors que les musulmans ne parlent pas encore le français et ne s'habillent pas encore à l'européenne. Ça arrivait plus tard dans les grandes villes. Je parle évidemment pas des montagnes, etc., dans le Rif. Ça, c'est encore une autre histoire politique, une autre histoire sociale. Mais en l'occurrence, dans ma lignée, c'était... des lignées urbaines, donc des grandes villes, Casablanca, Marrakech, Essaouira, etc. La conséquence de ça, ça a fait que ça a vraiment créé, je pense, une scission entre les Marocains de confession juive ou de confession musulmane. Et il a commencé à avoir des vagues de départ auxquelles beaucoup de membres de ma famille ont participé, des oncles, des tantes. C'était souvent des départs pour la France, pour l'État d'Israël qui n'était pas encore construit, pour l'Argentine aussi. Il y avait pas mal de départs vers l'Argentine. Et alors, par miracle, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais que ce soit dans la lignée de mon père ou dans la lignée de ma mère, je suis issue de deux lignées où on a fait le choix de rester. C'est peut-être une question de milieu social, parce que je pense que ces deux familles qui étaient bien installées, qui n'avaient pas forcément besoin de partir, qui n'imaginaient pas forcément qu'ils allaient avoir une meilleure vie ailleurs, qui n'avaient pas de projection en fait sur l'étranger, et donc ils sont restés. C'est des gens qui ont une belle vie, qui étaient ravis d'être au Maroc, qui se sentaient profondément marocains. Je le précise parce que moi, on m'a toujours dit, quand j'étais au Maroc, pas « t'es marocaine comme nous, t'es marocaine comme nous », mes copines musulmanes me disaient ça. Et moi, j'étais très flattée, mais je me disais « bon, bah, si elles ont besoin de le préciser, c'est qu'il y a quand même cette idée que les juifs marocains, ils sont marocains, mais pas tout à fait normalement ». Ce qui, au fond, s'explique politiquement, puisque les juifs marocains, ils étaient sous le statut de la dhimma, donc ils avaient un statut spécial d'étranger. Ils devaient payer un impôt, ils devaient s'habiller en noir, ils pouvaient pas porter des babouches jaunes. Et puis, ils devaient vivre dans le Mela, etc. Le Mela, qui est une sorte de ghetto très spécifique au Maroc, où les juifs vivaient entourés de murailles, avec des couvre-feux. Donc, ils avaient effectivement, historiquement, un statut particulier, un statut d'étranger, un statut de... on peut dire citoyen de seconde zone. Ça a disparu, ça, avec le protectorat. Mais je pense que ça reste dans l'inconscient collectif. Parce qu'en tant que juif au Maroc, je pense que dans l'inconscient collectif, il reste ce souvenir de l'histoire que les juifs sont marocains, mais pas que. C'était comme un pied dedans, un pied dehors. Ça reste. Et ça, moi, je l'ai ressenti quand j'y vivais. Je le ressens toujours maintenant. Je pense que mes parents qui vivent toujours au Maroc le ressentent. Ce qui les empêche pas du tout d'être heureux, ce qui les empêche pas du tout d'avoir plein d'amis de toutes les confessions, de parler parfaitement arabe, d'être complètement épanouis dans leur pays. Mais il y a ce rappel historique qui, je pense, pèse sur l'inconscient collectif. Je pense que, de toute façon, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays, la place des Juifs, c'est aussi une place qui est en dedans et en dehors. Delphine Horviller, elle a écrit là-dessus, c'est vraiment intéressant. C'est toujours le groupe qui empêche peut-être le fait de rendre les choses complètement totales, complètement harmonieuses, où tout le monde se ressemble. Bah, il se trouve que symboliquement et historiquement, le juif dans les sociétés, il a toujours été en dedans, en dehors, un pied dedans, un pied dehors. Mais en même temps, moi, je trouve ça pas mal parce que je me dis, c'est bien, ça empêche l'uniformisation complète. Et en général, l'étranger dans le pays empêche cette uniformisation. Donc, je ne sais pas s'il y a un sujet de résolution pour mes parents. Je pense qu'ils acceptent leur identité telle qu'elle est, à savoir des Marocains, mais des Marocains juifs. Et c'est une certaine manière d'être Marocain. C'est une autre manière, mais qui est ce qu'elle est et qui pour moi, n'a pas besoin d'être résolue. C'est juste comme ça. Et je trouve que c'est une belle identité aussi à avoir. Il y a de l'antisémitisme ordinaire, mais bon, il y a de l'islamophobie ordinaire. Le racisme, ça fait partie de la vie. Ça n'existe pas une société sans racisme. Il faut toujours se poser la question, je pense, non pas est-ce que ça existe l'antisémitisme, est-ce que ça existe l'islamophobie. Évidemment que ça existe, mais il faut se demander à quel point ces différents racismes ont un impact sur l'égalité des chances. En France, par exemple, l'islamophobie a un impact sur l'égalité des chances. Un CV d'un musulman, il n'est pas aussi bien accepté qu'un CV d'un Français catholique ou de famille de tradition catholique. Ou chrétienne, pardon. Je dis catholique, mais ce n'est pas forcément catholique, même si c'est la majorité. Évidemment qu'il y a de l'antisémitisme ordinaire. Évidemment que moi, j'ai pu entendre à table, chez mes copines, des choses sur les juifs pas particulièrement agréables, mais... En vrai, on entend ça partout, on entend ça dans toutes les communautés et envers toutes les autres communautés. Le racisme ne va pas disparaître. Si je me concentre simplement sur l'égalité des chances, aujourd'hui au Maroc, il n'y a pas d'impact sur l'égalité des chances. Donc pour moi, ce n'est pas un racisme qui fait du mal, c'est un racisme qui peut te faire sentir toujours déjà étranger, mais pas qui empêche, en tout cas. Je pense que mes parents ne ressentent pas de discrimination. Je pense qu'ils peuvent ressentir une forme d'antisémitisme, mais bon, ça c'est très partagé et tous les racismes sont très partagés. Et moi, on me demande souvent si je suis française. Et j'ai aucune raison d'être française, parce que la colonisation au Maroc, elle n'a pas du tout abouti, comme en Algérie, à une naturalisation des Juifs. En Tunisie, il n'y a pas eu de naturalisation des Juifs, mais c'était facilité, les naturalisations étaient facilitées pour les Juifs tunisiens. Au Maroc, ce n'était pas du tout le cas, ils étaient considérés comme citoyens marocains, sujets marocains. Il n'y a pas eu du tout ces volontés... De naturalisation, même si je pense que les Juifs l'ont voulu à un moment, ils étaient très inspirés par ce qui se passait en Algérie, mais c'est pas arrivé. Donc, étant donné que moi, ma famille n'a pas fait le choix d'aller vivre en France, on a aucune racine française, on est simplement de culture française très forte, parce qu'on a vécu dans un pays de colonisation française. En revanche, la semaine dernière, j'ai fait une demande de naturalisation, donc je vais devenir française, enfin s'ils veulent bien de moi. Moi, j'ai toujours su que je prendrais un aller simple, que je ne reviendrais pas au Maroc. Parce que j'avais beaucoup de colère, moi, contre le Maroc. Je trouvais que ce n'était pas un pays qui accueillait les femmes. Je trouvais que ce n'était pas un pays où on avait des libertés individuelles. Je me sentais extrêmement surveillée. Je trouvais qu'il y avait une chape de plomb morale, religieuse, très forte. Et j'y étais pas du tout épanouie. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le pays, mais... Enfin, j'aime le pays comme on aime un frère avec qui on se dispute beaucoup. Et je me rappelle, adolescente, que j'étais très en colère et que je fantasmais beaucoup la France. Je me disais, moi, je vais être dans un pays où c'est pas celui qui a le plus d'argent qui gagne son procès, où tout le monde peut aller à l'école, où il y a de l'argent dans les hôpitaux. Et j'étais fan de la France. Après, j'étais aussi scolarisée dans un système français, donc ça a aidé. Mais j'étais pas du tout contente d'être dans ce pays-là. Et je voulais absolument m'en aller. Parfois, j'ai un peu le regret de me dire j'aurais pu revenir en arrière, retourner sur mes pas et puis essayer de changer les choses au Maroc. La solution que j'ai trouvée, c'est plutôt d'écrire un livre là-dessus, mais j'ai pas les épaules, en fait, de vivre ça. J'ai pas les épaules de vivre avec des libertés individuelles qui me sont retirées. J'ai pas les épaules de même négocier avec l'ordre établi et de toujours... tenter de trouver des failles pour vivre comme j'ai envie de vivre. J'ai des amis qui sont retournés, qui sont très heureuses, parce que c'est un très beau cadre de vie. Et puis, les Marocains sont tous extrêmement gentils. Enfin, je pense qu'il y a un ADN de gentillesse. Et c'est vraiment agréable de vivre au Maroc. Il y a un vrai accueil de l'autre. Et mon père, par exemple, quand il est en France, il est traumatisé. Il me dit, les gens sont tellement méchants. Personne ne te sourit. Il me dit, mais moi, quand je suis à Casablanca, je me promène dans la rue, je dis bonjour à tout le monde, je prends un café. Il adore, lui, vivre au Maroc. Il ne comprend pas comment je peux aimer vivre en France. Mais je lui dis souvent que lui, il est un homme et que ce n'est pas la même chose quand tu es une femme.
Et du coup, quand tes parents ils ont vu que vous partiez, ils le vivaient comment?
Je pense qu'ils s'y attendaient. Hein. C'était un peu le schéma classique. Je pense qu'ils n'ont jamais attendu de nous qu'on revienne. Je pense qu'ils savaient très bien que c'était un aller simple. Je pense même pas qu'ils nous le souhaiteraient, en fait. Parce que ils ont conscience aussi de ces problèmes de liberté. Et eux, ils s'en accommodent très bien. Et puis, ils ont fait ce choix. Mais je sais pas s'ils le souhaitent pour nous. Ils voient aussi que le monde est en train de changer. Le monde est en mutation. Enfin, surtout pour les femmes. Mais il y a quelque chose à vivre de puissant. Et je pense qu'on le vit plus pleinement quand la religion est pas mêlée à tout. Et puis surtout... les Juifs sont extrêmement minoritaires. À nouveau, ça pose pas de problème parce que c'est une communauté qui vit avec bonheur et apaisement. Mais c'est dur d'être le seul de quelque chose. C'est dur d'être différent, parfois. Mais c'est agréable aussi d'être dans un pays où il y a d'autres personnes qui partagent sa culture. Et surtout, la France, il y a tellement de séfarades, alors que dans le monde, il y a plus d'Ashkénazes, mais je pense que, oui, ils n'espéraient pas forcément pour nous qu'on vive comme ça, extrêmement minoritaire, dans ce pays-là. Et je pense qu'ils sont heureux aussi qu'on vole de nos propres ailes et puis qu'on parcourt un peu le monde. C'est un peu étrange de se dire que voilà, cette lignée si longue de juifs marocains touche à sa fin, mais c'est peut-être aussi le sens de l'histoire.
Et donc, comment s'est passée ton arrivée en France ?
Très bien. En fait, j'ai pris la mesure d'à quel point j'étais étrangère. Et ça, je m'en rendais pas compte parce que comme j'étais au lycée français et puis que j'avais la télé en français et les magazines en français, j'avais l'impression que je connaissais la France et que j'allais arriver en terrain conquis. Sauf qu'en France, j'y étais allée qu'une seule fois et j'étais toute petite, j'avais 10 ans. En fait, je connaissais rien, je connaissais pas les codes, je connaissais rien en fait. Et je suis vraiment arrivée en pays étranger. J'ai été assez bouleversée de ça. En plus, j'arrivais pas dans le meilleur contexte parce que j'ai commencé en faisant une prépa où tout le monde était super brillant. Moi, j'étais juste forte au lycée, mais je m'attendais pas à me retrouver en classe avec que des génies, quoi. J'étais plus du tout la plus forte. Mais d'un coup, j'étais médiocre. J'étais au milieu de la classe. Et puis, c'était souvent des profils, des fils de profs ou alors des fils de ministres, hein, mais des gens extrêmement lettrés, extrêmement cultivés. Et moi, j'avais pas l'habitude de ça. J'avais l'impression d'être perdue, complètement hors propos. Et alors, je pense que j'ai passé la première année à me taire et à écouter les gens pour comprendre, en fait, leur système de pensée, leur façon de parler. Il y a plein de choses qui me paraissaient extrêmement étrangères. Moi, je trouve que la honte, l'humiliation, c'est vraiment ce qui a été le plus présent dans ma première année en France. Et je trouve que ça, c'est horrible, c'est vraiment ce truc d'appartenance au groupe. Quand tu n'appartiens pas au groupe, on te le fait sentir à travers l'humiliation. Je trouve ça vraiment terrible et je trouve ça assez, assez fort, particulièrement en France, parce qu'ensuite, j'ai vécu un petit peu à Londres et je trouvais que comme c'est une ville très cosmopolite où tout le monde vient un peu de partout, il n'y a pas tellement cet idéal auquel se conformer, mais en France, il existe cet idéal. Et je l'ai vraiment senti. Par exemple, je te raconte une de mes hontes de quand je suis arrivée. Donc j'ai pris le métro pour la première fois. Alors déjà, je n'en revenais pas de ce principe du métro. Je trouvais ça tellement brillant que les lignes se croisent et qu'on puisse faire des changements et tout. J'en revenais pas, je regardais la carte, mais je me disais, mais qui a inventé ça? C'est génial et tout. Et en fait, je ne savais pas que pour rentrer dans la rame de métro, il fallait attendre que les gens sortent. Et donc moi, les portes s'ouvraient, je rentrais. Et je me suis fait engueuler par une dame qui me disait « Et on attend que les gens sortent et tout !» Et tu vois, c'est plein de petites humiliations comme ça, où j'avais pas les codes, en fait.
Et pourquoi cette sensation de honte et d'humiliation s'est dissipée au bout d'un an? C'est parce que tu t'es, entre guillemets, assimilée?
Alors, je sais pas si elle s'est complètement dissipée, mais je dirais que j'ai mieux compris les codes. Et j'étais vraiment en mode caméléon. Mais j'étais pas encore bien. J'étais pas encore bien en France, ça a mis plusieurs années. Parce que j'avais toujours peur de dire quelque chose d'à côté de la plaque. Ouais, qu'on sente que j'étais pas d'ici, que je faisais pas partie du groupe. J'avais tout le temps super peur. Et donc, je faisais super attention à ce que je disais. Et d'ailleurs, les amis que je me faisais, en général, ils étaient pas parisiano-parisiens. Ils venaient de quelque part, donc toujours de France, mais ils avaient souvent des origines un peu méditerranéennes, donc ça m'a un peu suivie. Mais j'avais toujours l'impression que ouais, je ne savais pas forcément faire les choses. Ça s'est quand même dissipé parce que je me suis fait des amis, en fait. Et quand on se fait des amis qui nous aiment tels qu'on est, quand on trouve un groupe qui nous accepte, je me sentais quand même beaucoup mieux. Mais j'ai mis plusieurs années à non seulement me sentir bien, mais surtout me sentir parfaitement légitime. C'était moi la norme, en fait, c'est pas les autres la norme. Ma norme est la norme. Mais pendant très longtemps, j'avais l'impression que c'était les autres la norme et qu'il fallait que je m'y conforme. Là, c'est passé. Je pense que c'est les années, que c'est... Voilà, 13 ans sont passés. J'ai ma vie ici, j'ai mes amis. Je peux estimer que je suis parfaitement légitime à exister telle que je suis.
Tu te sens accueillie et pas étrangère.
Alors, je me sens même plus accueillie, parce qu'il n'y a même plus cette dimension d'accueil. C'est moi qui accueille maintenant. En fait, je me sens... c'est chez moi, ici. Et c'est pour ça que je pense que j'ai fait cette demande de naturalisation récemment. Il y a aussi le fait d'avoir écrit un livre et puis de l'avoir publié. Je me rappelle que la première pensée que j'ai eue quand j'ai publié mon livre, quand j'ai eu la réponse positive de ma maison d'édition, c'est... bon, ben là, on ne peut pas dire que je ne suis pas intégrée. Hein. je pense que je l'ai fait aussi comme un truc d'intégration. Et je pense qu'il m'a fallu toutes ces années-là et puis ces accomplissements-là pour me dire, en fait, on va arrêter de me dire que je suis pas d'ici, que je suis pas française. Ça y est, c'est mon pays d'adoption. Et maintenant, je fais la démarche de devenir française. Je le fais pas pour des questions de visa, je le fais pas pour des questions de praticité. Je le fais vraiment par conviction. C'est mon pays maintenant. Et puis c'est un pays qui m'a apporté énormément. Il y a plein de choses que je déteste ici, il y a plein de choses qui m'énervent. J'aime pas qu'une dame me crie au visage comme ça dans le métro et tout. J'aime pas que les serveurs soient pas sympas, j'aime pas plein de choses, mais c'est un pays qui m'a apporté beaucoup. C'est le premier pays où j'ai pu expérimenter ce que c'est de se promener librement dans la rue sans avoir aucun problème. Enfin, il y en a un petit peu, mais pas comme Maroc. C'est un pays qui m'a nourrie aussi intellectuellement, parce que c'est ici que j'ai fait mes études, c'est ici que j'ai commencé à vraiment écrire sérieusement. J'ai rencontré des profs, des amis, enfin, c'est vraiment un pays qui m'a nourrie. Donc là, je suis prête à en faire partie, sans me sentir en trahison par rapport au Maroc. J'arrive à me dire que je peux être pleinement les deux, à 100% les deux.
Et justement, donc, tu dis que tu as écrit un livre. Ton livre, il revient beaucoup. C'est une histoire qui se passe au Maroc. Pourquoi cette histoire-là? Pourquoi le Maroc?
Ouais, pourquoi le Maroc? Pourquoi j'ai écrit sur le Maroc? Ouais, j'avais écrit un premier roman avant ça qui avait rien à voir, mais que j'avais pas réussi à faire publier. Et en fait, j'avais l'impression que j'écrivais plein de choses, mais que je tournais autour du pot, alors qu'il y avait une seule chose que j'avais besoin d'aborder à ce moment-là de ma vie, c'était le Maroc. Et je crois qu'il y avait quelque chose que j'avais pas encore compris du Maroc, qui est cette ambivalence permanente entre l'ordre établi, les codes moraux, les codes religieux qu'on attend de chaque personne. Je te donne un exemple. C'est interdit d'avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est interdit par la loi. Mais bon, techniquement, c'est impossible. Tu peux pas interdire aux gens d'avoir une sexualité. Donc, tous les citoyens marocains sont en négociation permanente avec l'ordre établi, ce qui est attendu d'eux, et leur existence d'humain sur la terre, leurs désirs, leurs passions, leurs envies. Et en fait, il y a toujours une ambivalence parce que tu sais pas à qui tu peux dire la vérité, tu sais pas à qui tu peux mentir. Il y a toujours en fait ce vernis social en permanence qui fait qu'on vit tout le temps dans l'ambivalence. Et donc, j'avais, je crois, besoin de détricoter cette ambivalence-là pour la comprendre. Donc, j'ai recréé, en fait, en fiction, le système dans lequel j'avais grandi. Et en le recréant, je l'ai compris. J'ai compris où se situait la violence symbolique. J'ai compris où se situait la domination. J'ai compris où se situait le mensonge. Ça m'a permis, en fait, de tourner une page de quelque chose qui m'avait fait beaucoup souffrir, surtout adolescente. Et en fait, de penser cette plaie. Maintenant, j'arrive à penser au Maroc avec une joie un peu enfantine. En fait, j'arrive à y retourner avec amour. J'arrive à aimer le pays sans avoir cette colère, cette amertume pour le système. Parce qu'en fait, j'ai compris, je vois ce qui se joue grâce à l'écriture du livre. Et donc, ça m'a permis de faire la paix aussi.
Est-ce que dans ta façon d'envisager ta vie, tu as cette pensée que l'endroit où tu es peut aussi devenir un souvenir et tu pourrais t'établir encore ailleurs, etc. Est-ce que c'est resté un système?
Alors avant, oui, ça l'était. Ces 13 dernières années, j'ai quand même beaucoup bougé. Donc mon centre, c'était Paris, mais j'ai vécu en Chine. Ensuite, j'ai vécu à Londres. Ensuite, j'ai vécu à San Francisco. Et ensuite, j'ai vécu à Turin, en Italie. Et puis, je revenais à Paris régulièrement, mais enfin, je créais des vies là-bas, en fait. J'avais des amis. J'avais vraiment ce truc d'errance. Et puis, ça m'est complètement passé. C'est comme si je me disais, en fait, c'est plus possible d'errer. Il faut trouver son centre, il faut créer sa vie. Et je pense que ça coïncide. Alors, je viens d'y penser, j'avais jamais pensé avant, mais ça coïncide aussi avec l'écriture. Où, en fait, l'écriture, c'est ce qui me permet d'errer maintenant. Mais physiquement, je suis en France. Je pense que aujourd'hui, j'ai besoin de m'établir, j'ai besoin de me sentir, faire partie d'un système qui est le mien. J'ai besoin de sentir que je fais partie d'une communauté et non pas que je suis un électron libre qui se promène. Et après, peut-être volonté d'errance que j'ai intérieurement, elle s'épanouit dans l'écriture. Mais j'ai plus forcément envie de m'en aller, pas forcément envie de quitter la France. Et je pense que c'est aussi lié au fait de m'être sentie tellement étrangère au Maroc. Pas seulement parce que ma religion n'était pas majoritaire, mais aussi les femmes sont des étrangères au Maroc. Elles sont essentiellement étrangères. Elles sont essentiellement le pendant négatif de l'homme, ouais, l'autre versant du patriarcat. Elles sont toutes bridées dans leur existence. Elles sont toutes des citoyennes de seconde zone. Donc, j'étais étrangère, mais comme des milliers de femmes, je pense, au Maroc, se sentent étrangères, qu'elles soient juives ou non. Donc, j'avais vraiment ce sentiment d'étrangeté. Et je crois que ça a créé en moi l'envie de m'ancrer et l'envie de plus jamais me sentir hors propos. Après, je pense que j'aurai toujours à l'intérieur un truc d'illégitimité, un truc de marginalité. La marginalité, je pense que ça me suit. Je me sens toujours légèrement marginale, légèrement en décalage. Et j'essaye de surtout pas être marginale. Moi, en fait, mon obsession, c'est d'être comme tout le monde. Je veux pas du tout cultiver ma singularité. Et j'ai l'impression que ma singularité se cultive malgré moi. Mais si je m'écoutais, moi, je voudrais... Déjà, avoir un prénom plus simple, je voudrais être beaucoup plus passe-partout. J'ai vraiment ce trauma de je veux qu'on me voit pas dans le groupe, je veux pas être le singulier du groupe. Je pense que je le suis malgré de moi et que je le serai toujours parce que voilà, j'ai des origines tellement particulières. Il n'y en a pas beaucoup des juifs marocains comme ça, donc c'est sûr que oui, je ferai jamais vraiment partie de la norme, mais... Vraiment, si j'écoutais mon fantasme absolu, je serais complètement normale, passe-partout. Je ressemblerais à tout le monde, je m'appellerais comme tout le monde, je parlerais comme tout le monde.
J'ai l'impression que justement, c'est parce que c'est une obsession de vouloir être comme tout le monde que du coup, ça cultive le marginal.
Tu sais, je pense que quand on a un trait de caractère fort, on a le trait de caractère inverse tout aussi fort et puis on se balance entre les deux. Je te donne un exemple, moi je suis... à la fois très introvertie, très solitaire, et puis après j'ai des moments d'extraversion intense, et puis j'ai envie de voir vachement de monde. Et je pense que c'est pareil sur la marginalité et la norme. J'alterne entre des moments de grande volonté d'être comme tout le monde, et puis après je fais des actions qui me marginalisent ou qui me singularisent, comme écrire un bouquin. Je veux dire, si j'avais pas envie d'être singulière, peut-être que j'aurais fait autre chose, j'aurais été comptable, quoi, mais... Je veux à la fois être comme tout le monde et à la fois il y a des choses en moi qui se réveillent parfois malgré moi et puis je fais des choses très singulières. Donc ça me reste, je l'efface pas complètement.
Et alors deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, si tu n'avais pas eu ce parcours, est-ce que tu penses que tu aurais peut-être choisi un autre métier ?
Peut-être, en fait oui, je m'étais fait la réflexion la dernière fois qu'il y a des personnes qui n'ont jamais connu ce que c'est d'être différent. Ils sont, par exemple, nés musulmans au Maroc ou bien alors chrétiens en France. Enfin, ils sont nés déjà comme tout le monde. Et c'est même pas forcément une question d'origine, mais par exemple, si t'es le seul mec super bourgeois dans un milieu pas du tout privilégié ou le seul mec pas du tout favorisé dans un milieu hyper favorisé, tu ressens ce que ça fait de pas être comme tout le monde. C'est pas seulement un truc d'origine, c'est aussi les origines sociales. Et en fait, je pense que ça te met dans un état où t'as toujours une sorte de recul sur les choses parce que tu sais que la bulle de normalité, t'es pas forcément à l'intérieur. Et donc peut-être que ça crée des personnalités où il y a une volonté de comprendre, d'analyser. Et je me disais, parce qu'en fait, il y a plusieurs années, je suis sortie avec un garçon qui était vraiment... Je me disais, mais qu'est-ce qu'il est normal? tout dans sa vie, il était la norme suprême. Il a grandi en étant dans la norme, c'est-à-dire qu'il a grandi en France, et puis il est français depuis des générations, Et puis culturellement, il est français et il était dans un lycée où tout le monde était comme lui. Et en plus, il était super beau et un peu dominant. Et donc, c'était même pas un garçon dont on se moquait. Au contraire, c'était lui qui se moquait des autres et tout. Et je me disais, mais c'est d'être tellement confortable comme vie de n'avoir jamais connu bah, les petites humiliations quotidiennes de celui qui est errant, de celui qui est en dehors, de celui qui ne fait pas partie du tout. Ce garçon-là, en fait, il représentait le tout. Après, je ne veux pas dire que ces gens-là ne réfléchissent pas et que nous, la communauté des errants, nous réfléchissons. Ce n'est pas vrai. C'est sûrement quelqu'un qui a aussi une grande capacité d'analyse et tout. Mais je pense que dans son cœur, il y a un confort que dans mon cœur, il n'y aura jamais. Il y aura toujours quelque chose en moi de légèrement inconfortable qui va toujours me tendre vers la volonté de comprendre ou me tendre vers, je sais pas, vers une volonté d'analyse et puis aussi une remise en question de moi-même permanente puisque le groupe m'annonce que je ne fais pas partie de lui. Et donc, c'est vrai que je suis tout le temps en remise en question. Donc, c'est peut-être cette absence de confort qui fait que j'ai eu envie d'écrire. Ça a créé, une volonté de comblement, de compréhension et de me dire, en fait, ce système-là, cette norme-là que je ne comprends pas et dont je ne fais pas partie, si je suis capable de l'écrire, ça veut dire qu'au fond, je l'ai comprise et ça veut dire qu'au fond, je peux faire partie du truc. Donc, je recrée à chaque fois des systèmes. J'écris que sur des systèmes sociétaux, des systèmes familiaux, mais c'est toujours sur comment marche un système. Et je pense que je ne m'exprime pas en écrivant, je détricote et je retricote pour comprendre ces systèmes autour de moi dont je me sens toujours, toujours un petit peu exclue.
Quelque part, c'est-à-dire que ton écriture, elle vient aussi de cette histoire-là.
Ah ben oui, elle vient, je pense, de la sensation de marginalité. Simplement, moi, j'écris pas forcément « Bonjour, je me sens marginale ». Il y a des gens qui écrivent ça, c'est souvent très réussi. J'écris surtout « Voici le système en face duquel je me sens marginale, je vais aller l'explorer ». Mais oui, c'est sûr que le sentiment de marginalité, c'est peut-être le moteur de toutes mes actions. Et de tous mes traumatismes.
Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.